Alors la zone, ça disquatte, est une émission autour du mal logement et de la précarité à Marseille, racontée par celles et ceux qui s'y confrontent. L'idée est de créer ensemble un espace où témoigner de leur parcours, leurs difficultés et leurs luttes quotidiennes, invisibilisées dans l'espace public et médiatique.
À l'automne, l'équipe d'Alors la Zone est partie en Cévennes rencontrer le collectif de La Logeuse. Loin de Marseille, certes, mais tout aussi impliqué dans la lutte contre le mal-logement. On s'est dit que ça ferait un super hors-série pour notre émission. Comme nous avons nos entrées dans le doux village de Saint-Martin-de-Lensuscle, en Lozère, plusieurs protagonistes nous ont accompagnés dans notre découverte des enjeux liés au logement sur le territoire. Ce soir, sur le plateau en direct de Radio Galère 88.4, il n'y a personne, et en technique non plus. Tout est dans le podcast. On vous souhaite une bonne écoute.
Eh bien, bienvenue à Saint-Martin-de-Lensuscle. C'est le village où j'ai grandi. Du coup, c'est un peu bizarre de parler du village au micro, de Radio Galère. Mais c'est trop bien, en même temps. C'est trop bien de vous avoir ici. Et du coup, là, on est presque au bout du village. Le panneau, il est juste au-dessus de nous. Et la cabane qu'on voit au fond qui est fermée, c'est la cabane du cantonnier. C'est là où il y a tous les outils du village. On a un cantonnier qui règle un peu tous les problèmes du village. La voirie, les petites réparations, l'entretien des espaces verts qui sont communs, enfin qui sont publics. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Voilà, du coup, le cantonnier, c'est Sébastien. Et c'est toujours Sébastien depuis que je suis enfant. Et je l'ai vu travailler l'autre jour sur la route. Et voilà, son appentis, c'est là-bas au bout. Et après, de l'autre côté, quand on se tourne de l'autre côté vers la montagne, la première chose qu'on voit, c'est des maisons qui sont fermées, qui sont très jolies, avec des fleurs. C'est des grosses maisons, au volet vert. Et donc là, la première maison qu'on voit sur la gauche, c'est la maison des Brunetons. C'est une vieille famille du village qui vient que en vacances, mais qui faisait partie un peu des nobles, nous on les appelle la comtesse, enfin on appelle la dame Brunton la comtesse parce que elle adore dire que Saint-Martin c'est à elle. Voilà, donc c'est cette maison là, la maison des Brunetons, on l'appelle comme ça. À gauche, il y a une montée et c'est pour monter vers l'église. Il y a d'autres maisons un peu plus haut, notamment l'ancienne maison de Fernande, qui était la doyenne du village et qui est décédée il y a quelques années, et qui était l'arrière-grand-mère de ma copine de collège. Voilà, et juste en dessous, juste après, il y a la maison des Chaptal. Et eux, c'était la deuxième famille de nobles de Saint-Martin et eux aussi ils sont jamais là quoi. Voilà, ils viennent avec leurs petits-enfants une semaine par an à peu près. Et ils ont des jardins très bien entretenus parce que les gens du village, notamment Robert et Arlette qui habitent un peu en dessous, ils entretiennent pour eux les jardins, ils réchauffent la maison avant qu'ils arrivent, du feu, tout ça, enfin, ils sont un peu employés de maison de ces gens-là. Et moi, ce que je me souviens, c'est que quand j'étais petite et que les enfants y venaient, donc les enfants qui avaient le même âge que moi, on se combattait dans le village pour savoir à qui était le village. Et qu'on faisait on se battait avec des bâtons. Juste avant, là on est passé devant, il y a la maison à la porte rouge, comme on l'appelait avec mon petit frère. Et cette maison-là, du coup, elle a longtemps été habitée par un couple et leur fils, Antoine. Et maintenant, elle est inhabitée depuis qu'ils sont partis. Et là aujourd'hui elle est de nouveau habitée puisqu'elle a été rachetée par La Logeuse, une association qui achète des maisons sur le village de Saint-Martin, et donc elle est habitée par plusieurs locataires, et le sous-sol qui en a été fait, on voit la porte, elle est toujours ouverte, et ça donne sur un atelier de réparation de vélo autogéré où on peut aller réparer son vélo, il y a du matériel, paye dans une petite boîte, et puis derrière ils ont créé, là c'est vraiment tout nouveau, ça cet été je suis passée, ça n'existait pas encore, il y a une épicerie autogérée, donc il y a plein de produits du coin, et pareil on vient, on prend et on paye dans la boîte. Et après, juste au-dessus de notre tête, du coup, c'est la bibliothèque du village, qui est aussi en autogestion, du coup elle est ouverte 24 heures sur 24 et on peut y aller quand on veut emprunter des livres avec des petites fiches qu'on remplit et après on ramène les livres. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Le village de Saint-Martin, c'est quand même une rue principale avec des maisons des deux côtés. Il y a vraiment deux ruelles qui montent vers l'église, là, qu'on a vu tout à l'heure. Mais sinon, en gros, c'est une rue, quoi. Et là, cette maison qui est de l'autre côté, c'est l'ancienne maison de Bernard Couder, qui est décédé il y a peu. Et maintenant, la maison est à vendre. Et donc, pour la première fois, je vois dans mon village une maison avec une pancarte d'agence immobilière. Ce qui est hyper étonnant parce que j'ai l'impression que ça n'a rien à faire là. J'ai l'impression que c'est complètement décalé et que c'est très étrange. Et voilà, moi mon souvenir avec cette maison, c'est d'aller chez Bernard et puis il nous montre d'aller s'occuper de ses lapins. Et d'avoir un jour découvert qu'en fait on fait du pâté avec les lapins. Voilà, j'allais dans les clapiers qui sont juste attenants à la maison. Que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí. Cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti.
J'ai cuisiné bon matin, parce qu'on va manger chez Marc, alors j'apporte la ratatouille, la soupe et le dessert.
Ah mais t'as tout fait quoi?
Pas tout à fait, mais...
Pratique comme un.
Ça va Robert?
Ça va.
Asseyez-vous, merci. Vous voulez. Merci.
Moi c'est Arlette Valderon, née Plagne. j'ai 82 ans. Je suis née le 11 mai 1943 et j'ai toujours habité Saint-Martin. Quant à toi.
Moi, c'est Robert Valdero, donc l'époux de madame.
Tu es né.
Mais moi, je suis né à Saint-Étienne-Vallée-Française, juste un peu plus bas. Et je suis venu ici parce que bon, je l'ai connu, on s'est marié et j'ai fait l'artisan de maçon ici. Voilà.
Et tu as 80 ?
Et j'ai 84
ans.
Elle est comment cette maison où tu habites ?
Ben nous, il y a notre pièce où on vit, la cuisine, le WC. Et en haut, on a deux chambres puisqu'on en a sacrifié une pour faire salle de bain et WC, comme on est âgé, qu'on se lève la nuit. Voilà, sinon avant, il y avait trois chambres quand nos enfants étaient là. Voilà. Et on avait juste un coin de toilette. Mais quand on s'est marié, c'était tout vieux, tout noir,
oui,
là-bas. On a tout refait, de A à Z, à part la toiture. Et sinon, il y avait, là où est Jean-Christophe, il y avait une famille, nos ancêtres. Ils étaient 6 enfants. Et il était boulanger et facteur. Et ils montaient le bois pour chauffer le four d'en bas, là-bas, où on a notre jardin. Okay. Et le pont d'Ossillon, tu
ouais,
vois.
Ouais, ouais.
Et ils ont vécu durement, hein, à cette époque. Puis ma grand-mère a été veuve, elle a élevé son fils. Et elle faisait des billes de tabac. Et donc, puis nous, on s'est mariés, on est restés ici. Mais elle, toujours, elle a vécu là. Le coucher là, nous, on était réduits avec nos enfants. En plus, Robert, il avait des salariés, puisqu'il était maçon, et on les logeait et on les nourrissait.
Ah oui, et vous les logiez ici ?
Et oui, on était à l'étroit, tu sais.
Il y avait combien de personnes ici alors qui habitaient ?
Là, on était ma grand-mère, nous deux, les enfants. Nos deux enfants. Et après, deux salariés qu'on couchait quand même. Ce qui est dommage, c'est qu'à Saint-Martin, il n'y a plus l'ambiance d'avant. Parce que c'était que des cévenoles. Mais c'est pas pour ça, hein. Parce qu'on est très bien avec nos voisins. Si on a un truc à demander, c'est à eux qu'on le demande plutôt qu'à notre famille. Tu vois, comme c'est devenu. Et alors, à ce moment-là, il y avait, là où vous êtes, il y avait l'épicerie, la boulangerie et l'agence postale. Il y avait trois trucs. Dans le village où on était une bonne trentaine. Hein. Et après, et en bas de chez nous, il y avait la mercerie et la couturière. Et ici, le tabac. Puis après, ça a été là où est Pierrot. C'était mes parents. Il y avait le tabac et il y avait le café.
Un café.
Et puis plus tard, mes parents ont fait restaurant. Et puis après, je travaillais. Ils nous faisaient travailler pour des gens l'été. Tu sais, on allait garder des enfants ou faire la cuisine, le ménage.
Et parce ça, t'allais le faire dans les villages
ici ou à Malossette, quand il y avait un monsieur, des gens qui étaient aisés. Il était de Marseille. Mais avant, c'était la famille Estève, c'était des Cévenoles, qu'on a connus aussi. Mmh. Et papa, il allait garder ses moutons là-bas quand il y avait monsieur Gillot. Il était fermier. Et après, ça a été mon frère. C'est plus Saint-Martin d'avant, même l'entour. Et c'était très cultivé, très entretenu. Et maintenant, ce n'est que des ronces. Mmh. Alors ça nous fait mal. Hein. Parce que nous, on nous disait, allez châtaigner, allez couper des fougères, et on y allait. Et maintenant...
Et l'école, comment ça va depuis que toi, tu as été à l'école à Saint-Martin ?
Tu sais, nous, on était nombreux, mais après, quand Jean-Christophe a commencé, il n'y avait pas d'école pour les petits. Il y avait 3 élèves. Je l'ai inscrit pour que l'école ne se ferme pas. D'ailleurs, il y a un mauvais souvenir parce qu'on ne faisait pas des choses pour les petits, tu vois. Mmh. C'était pas agréable. Et après, ça a monté à l'école. Hein. Oui. Et maintenant, ils sont 11. Et la petite, je crois, de Ellie va rentrer, là, m'a dit sa grand-mère.
Ça,
c'est bien parce que, quand même, ça fait une vie au village. Hein. Nous-mêmes, si on est seuls, ça nous fait rien, tu vois. Pourtant, on n'est pas à télé ni tout ça. La lecture, Robert, il ne peut pas lire. Moi, on m'a prêté des livres, là. l'hiver joli. Mais sinon, moi je vais marcher, on a le jardin, on aime bien. Et c'est bon pour le moral, tu vois. On se vide la tête quand on est au jardin. Ah, moi j'entretiens tout mon coin là. Le cimetière, l'église, parce qu'on a la... Moi je suis croyante, on a la messe une fois par an. Et alors, on était 40 quand même. C'est pas mal pour Saint-Martin. Et on offre après l'apéritif et un repas. Et on était 20 au repas.
Qui a cuisiné alors?
Moi.
C'est toi? Trop bien. Tu disais avant, il y avait les commerces et tout au village.
Eh bien, c'est...
Mais là, du coup, ça... Ben, nous, on a vu... Enfin, tu vois, il y a la petite sorte d'épicerie qui est en train d'arriver.
Oui, mais tu sais, il n'y a personne. Alors... Moi, j'y suis allée une fois, j'étais la seule. Ils n'ont pas de tout, ils ont des choses que, tu vois, des fois, nous, on a. Hein. Alors, moi, j'ai acheté les produits là, de la boutique de Sainte-Croix, tu sais, les plantes, là. Parce que je m'en sers pas mal. Mais sinon, si, il y a des pâtés, il y a du miel, ça, encore, ça va. Comme elle m'a dit, on ne peut pas... mettre des choses périssables si on ne les vend pas après. Mmh. C'est vrai. Mmh. Il faudrait les commander. Mais bon, c'est tout un... Parce que même, tu vois, les gens comme tes parents, là, qui sont arrivés, les néos, on appelle ça, hein, eh bien, ils n'y viennent même pas. Parce qu'ils se commandent souvent en groupe, tu vois, les produits bio ou des trucs comme ça. Et le boucher... a un boulanger qui passe, ouais. Et un boucher. Ça, c'est déjà pas mal. Eh bien, c'est un camion. Et tu vas au camion, et là, il a le choix, quoi. De la boucherie, charcuterie. Si, il a... Mais nous, tu sais, à nos âges, on mange moins de viande. Moi, j'y vais pas chaque fois, hein. C'est chaque semaine. Et le boulanger, on lui commande notre pain, parce qu'avant, il faisait épicier, mais il a arrêté. Voilà.
Nous, on a vu que à côté, bah, juste à côté, chez les Poudères, c'est à vendre. C'est à vendre. Et vous, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe dans cette maison?
Eh bien, nous, on l'a dit de suite à la logeuse. Mais il faut l'argent, hein. Ouais. C'est ça.
C'est ça, bon.
C'est mieux qu'une résidence secondaire. Enfin, on a des Norvégiennes à côté. Bon, c'est vrai qu'ils viennent pas... Enfin, ils viennent encore assez souvent.
Oui. Mais...
Et ils sont très gentils, eux aussi. On s'invite, tu vois, qu'avec les étrangers.
Oui, parce que, je sais pas, vous, au bout du village, là,
chez les Chaptals, il y a les Chaptals, mais ils viennent plus. Les Chaptals, ils sont malades, ils sont âgés. Les Brunetons viennent encore un peu. Sa sœur aussi. Les Belges, ils viennent, eux. Ils sont venus de début mai et ils sont partis en septembre. Et puis, ils louent l'été. Ah. Ils louent, tu sais, à la semaine.
Ah.
C'est des gens riches, mais ils louent.
Et oui,
riches et radins.
C'est des Belges. Les riches, ils font ça. Hein.
Mon Dieu. Ils ont fait une fête pour la logeuse l'an dernier. Et comme c'est l'an dernier, on avait participé, il fallait faire quelque chose. Ils nous ont invités après un apéritif. Mais bon, c'était pas tard, on y est allé. Là aussi, ils nous ont invités une ou deux fois à l'apéritif. On y allait, puis on revenait. Voilà. Et il y a deux maisons à vendre aussi, au plan. Je ne sais pas si tu connais cette Véronique qui a acheté au plan. Elle vient tenir la boutique des fois. Elle fait du yoga. L'été, elle a rencontré deux couples de Paris au marché et qui étaient intéressés et qui sont allés visiter ces deux maisons. Alors, est-ce qu'ils vont venir habiter? J'en sais rien. Alors, si c'est des gens, paraît-il, qui habiteraient l'année, c'est bien aussi. Parce que finalement, au plan, oui, il y a deux qui habitent à l'année.
Ouais.
Et trois, puisqu'il y a le couple avec la petite. C'est bien parce qu'à un moment, il n'y avait personne qui habitait à demeure. Hein. Mais en fait, les résidences secondaires du village, c'est des gens qui ont des maisons de famille.
C'est de famille.
Il n'y en a qu'une qui s'est vendue et celle-là. Hein.
Mais du coup, la logeuse, pour vous, c'est chouette comme initiative?
Oui, c'est très bien. C'est très bien.
Oui, parce que je ne sais pas ce que ça serait devenu, hein, s'il n'y avait pas eux. Peut-être que ça ne se serait jamais vendu.
Aussi, ça se serait vendu, mais à des...
Peut-être pour des résidences secondaires.
Il y en a assez des résidences secondaires dans le village.
À cet entretien avec Arlette et Robert, qu'on remercie chaudement, l'équipe d'Alors la Zone reprend ses enregistreurs et ses micros pour s'installer à La Chaloupe, le bar autogéré du village. On y retrouve des membres de l'association La Logeuse qui nous parlent de leur lutte pour l'accès au logement et pour que Saint-Martin-de-Lensuscle reste un lieu vivant.
Bonjour à vous et bienvenue sur Alors la Zone ça discouette. Merci d'être là avec nous. Déjà, est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter et nous dire un petit peu où on est aujourd'hui ?
Alors, bonjour, moi c'est Aude. On est dans le petit village de Saint-Martin-de-Lensuscle en Lozère sud-sud, dans les Cévennes. Il fait très beau, il y a du vent, il fait très froid. Et on est en plein centre du village, dans un lieu qui s'appelle la Chaloupe. C'est une petite salle, toute petite, une salle collective où on fait nos petites réunions d'assaut, où on fait des petites soirées. Le vendredi soir, buvette, petit repas pour ceux qui veulent. Et quoi, c'est l'ancienne salle du conseil municipal d'il y a très très longtemps et qu'on a su récupérer, ouvrir pour ça. Et c'est chouette, voilà.
Richard, donc moi je me suis installé à Saint-Martin-de-Lensuscle. Je suis venu la première fois à 69 et je me suis installé en 76-77 pour élever des chèvres, une quarantaine de chèvres sur la commune. Puis ensuite je suis devenu secrétaire de mairie et adjoint au maire il y a quelques années. Et maintenant je suis à la retraite et je fais plus que des brebis et des châtaignes.
Au moment de ton arrivée à Saint-Martin, comment ça s'est passé ton intégration comment tu dirais ça ?
Alors à l'époque il y avait 90 habitants à Saint-Martin-de-Lensuscle. Donc l'école était prête à fermer, il n'y avait plus que 5 enfants. Quand on s'est installé il y avait plein de possibilités. Il y avait des ruines partout, des maisons à des prix abordables. C'est pour ça qu'on s'est installé ici d'ailleurs, parce qu'on avait cherché avant à s'installer dans la Drôme, dans l'Ardèche, en Isère, c'était trop cher. Et ici, on avait trouvé quelque chose de pas trop cher. Enfin, il y avait plusieurs possibilités et on s'est installé donc, sur une des propriétés qui n'était pas très chère sur la commune.
Et toi, Aude, il me semble que tu es arrivée à un autre moment. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu ton arrivée à Saint-Martin, comment ça s'est passé ?
Alors, moi, je suis arrivée sur Saint-Martin dans les années 2000, il me semble. 2000, ouais. Ça faisait 3-4 ans que j'étais dans le coin, village avoisinant, là, à Sainte-Croix-Vallée-Française. Et donc, on a essuyé pas mal d'échecs au niveau location, installation, enfin bref. Et on s'est retrouvés, c'était pas du tout dans nos projets, mais à chercher un autre endroit où habiter. Et finalement, on s'est retrouvés à acheter un lieu grâce à Richard qui est devant nous. Parce que voilà, on est venu, on a visité plein d'endroits, on a essayé plein de plans de location quoi qui ne fonctionnaient pas. Et il nous a dit, ben là, ici sur la commune, il y a un terrain, personne n'en veut, les proprios sont assez sympas, il se passe rien, essayez quoi. Et on a essayé, ils ont été ok pour nous vendre ce lieu peu cher. Et voilà, c'était pas prévu, mais c'est ce qu'on a fait. On a emprunté des sous à un copain, heureusement, on a pu faire ça. Et on s'est calé là, il n'y avait rien, pas de chemin, pas d'eau, rien, un tas de ruines. Et voilà, on a commencé avec une caravane et puis on s'est installé.
Et on parle de prix, et du coup, à ces deux époques un peu différentes, mais est-ce que vous pourriez nous donner un ordre d'idée des prix de l'époque, soit pour de la location, soit pour de l'achat, et aussi vous parlez de terrain, de maison, peut-être un peu décrire comment, c'est quoi la distinction, pourquoi cette distinction ?
Alors nous, on a acheté un terrain de 9 hectares, donc très très grand, mais c'est un piton rocheux, c'est tout en pente, il n'y a juste rien que des chênes verts. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de terre, mais par contre, on a une vue incroyable. Et il y avait un tas de ruines dessus. Enfin voilà, il y avait genre, t'imagines, des bouts de murs avec des arbres qui poussent dans une maison que t'imagines un jour, il y avait des gens qui habitaient là, mais t'es même pas sûr, en fait. C'était les dernières traces, ça datait de 100 ou 150 ans en arrière, quoi, sur les cadastres. Et on a acheté ça 40 000 francs. Voilà.
Wow. Et Richard, tu peux nous raconter un
alors,
petit peu ?
Alors, nous, c'était donc en 77. Il y avait une famille qui habitait encore là où on a acheté. C'était le Cross, ça s'appelait. Et la personne se mariait. Et donc, la femme qu'il avait trouvée ne voulait pas habiter là. Donc, ils sont déménagés sur Florac et ils nous ont vendu la propriété 140 000 francs. Là, il y avait 20 hectares. Il y avait une maison. Il y avait des bâtiments agricoles. Mais la maison était en très mauvais état quand même, mais il y avait quand même du potentiel, on va dire quoi. Il n'y avait pas de salle de bain, pas de WC, rien du tout. Donc on a commencé par bien installer nos chèvres, parce qu'on avait 40 chèvres en lait. Enfin, en lait. Les premières années, on vendait le lait, ensuite on a fait le fromage, donc il a fallu faire une fromagerie aussi. On a acheté 140 000 euros. L'accueil par rapport à la population, donc c'était 140 000 francs, pardon, excusez-moi, 140 000 francs, c'est différent. Et c'est pas nous qui avons acheté, hein, c'est le Crédit Agricole et des copains qui nous ont prêté plein de sous en échange de venir en vacances, avoir des agneaux, etc. Parce que nous, on avait rien quoi, au départ non plus. Et donc l'accueil de la population a été plutôt favorable. À l'époque, il y avait deux clans très marqués, des protestants et catholiques. Et ce qui maintenant est beaucoup moins fort. Et à l'époque, on a été plutôt bien accueillis par la communauté protestante. Pourquoi ? Sans doute parce qu'on aimait beaucoup chanter, on a participé à la chorale protestante, on s'est fait des amis. Et du coup, on a été relativement bien accueillis par la chorale protestante. Quoi, voilà.
Et toi, Aude, en termes justement d'accueil à Saint-Martin, ça s'est passé comment ?
Eh ben nous, c'était pas pareil du tout. L'accueil, à part Richard qui nous a vraiment ouvert les portes et proposé des solutions, on a été hyper mal accueillis. En fait, moi je sais pas ce qui m'a pris quand on est arrivé, qu'on a décidé d'acheter cet endroit. Je me suis dit, il faut aller se présenter au conseil municipal, leur dire bonjour, on arrive, on veut s'installer. Enfin, j'étais un peu tout flamme. Et en fait, ça a été mais le une soirée épouvantable. Je suis arrivée au conseil municipal et alors là, quand j'ai dit ça, tout le monde s'est retourné vers moi, genre, vous n'allez pas vous installer là, vous n'aurez jamais d'eau, on ne vous mettra jamais de chemin. Enfin, je ne sais même pas pourquoi ils disaient ça, d'ailleurs, je ne vois pas le rapport. On ne viendra jamais chercher les enfants avec le bus. Enfin, déjà, on n'avait pas d'enfants. Enfin, bref, il y aura... Enfin, on ne fera rien pour vous, quoi. Et après coup, même, on a su que ça avait été plus loin. Ils avaient essayé de dissuader les propriétaires de nous vendre. Enfin, c'était vraiment... Et le lendemain de ce conseil municipal, moi, j'étais complètement retournée. Ils sont venus sur le terrain pour de nous... Je ne me rappelle même plus trop exactement ce qui s'est passé, mais en tout cas, je me rappellerai toujours qu'il y a une personne du conseil municipal qui m'a dit face à face « J'espère que vous avez du fric, parce qu'on ne sera pas là pour vous. » Et ben, en gros, nous, on était plutôt en mode à hésiter à s'installer là. Et ben, à partir de ce moment-là, on s'est dit « On s'installe. » Et c'était vraiment ça, quoi. Et à la suite de ça, je me suis dit « Mais c'est pas possible, c'est quoi ces conseils municipaux? Ça sert à quoi? C'est quoi ces gens ?» Et du coup, j'ai voulu me présenter, encouragé toujours par Richard, aux futures élections qui avaient lieu le printemps suivant. Et je me suis présentée seule, parce que la liste était déjà bien close. Et j'ai été élue, voilà. Oui, je venais aussi au conseil municipal parce qu'il y avait toutes les histoires de possibilités de permis de construire avec la loi montagne. Du coup, je voulais un peu tâter le terrain. Est-ce qu'on allait être soutenu dans l'installation ou pas? Là, on a vu clairement que non. On s'est dit, tant pis, on y va, on s'installe.
Richard, est-ce que tu veux nous dire un peu plus sur cette loi montagne et sur ces questions d'urbanisme local?
À l'époque, j'étais secrétaire de mairie. Donc, la loi montagne, c'était une loi qui interdit... Enfin, il y avait plusieurs lois. Il y avait la loi montagne, la loi zone périphérique du parc national. Enfin, il y avait plein de blocages, on va dire, institutionnels qui existaient. Moi, au niveau de la mairie, je pouvais montrer qu'avec des photos aériennes, avec des tas de machins, qu'il y avait une ruine. Donc, une ruine qui était a priori, on a pu faire jouer un petit peu là-dessus, que c'était avait été sans doute une maison. C'était pas clair, mais on a joué là-dessus quand même. Et du coup, le blocage a été moins net au niveau des institutions, pas au niveau du conseil municipal, où il y avait quelques-uns quand même qui étaient un petit peu... C'était un petit peu divisé, même s'il y en avait beaucoup qui étaient contre. Notamment, c'était au niveau de la chasse. Il y avait des problèmes de chasse. Pareil pour Laurent et Nathalie au-dessus, ça a été au niveau de la chasse qui bloquait, parce que c'était à l'intérieur de leur territoire de chasse pour certains, quoi. Donc on a pu petit à petit jouer un petit peu là-dessus. Et la loi montagne, c'était une loi qui interdisait de construire à plus de 50 mètres d'un bâtiment. Et on a pu montrer que c'était une maison, donc potentiellement on pouvait rebâtir, comme il n'y avait pas à l'époque de PLU, de plan local d'urbanisme, c'était la loi RNU, ça s'appelait. Donc c'était une loi nationale qui faisait qu'on pouvait retaper éventuellement des ruines, à condition qu'il y avait un certain nombre de hauteurs de toit, de murs, pardon.
Aujourd'hui, Aude, toi, tu habites sur ce terrain, enfin, t'as construit ta maison, et tu peux nous dire un peu à quoi elle ressemble?
Bah, du coup, au début, on a... Oui, voilà, au début, on a amené juste... On a fait faire un chemin, parce qu'il n'y avait pas d'accès. La commune nous a finalement... Parce que bon, je me suis retrouvée au conseil municipal. Nous a finalement amené l'eau en haut du chemin, chose qu'ils ne font plus maintenant. Mais à l'époque, ils ont accepté de nous mettre l'eau en haut du chemin. Du coup, nous, après, on a tiré des tuyaux, tout ça. Parce qu'il n'y a pas d'eau sur le terrain. Voilà, on est plein sud, sur du rocher. Et ben voilà, on a commencé petit à petit. On a mis une caravane, puis on a retapé un petit bout de ruine, puis une petite cabane, puis... On a réussi finalement à avoir le permis de construire au bout de 4 ou 5 ans parce que j'ai construit un mini bâtiment agricole, c'est-à-dire un séchoir solaire en fait, puisque je fais une activité de travail avec les plantes aromatiques et médicinales. Du coup, on a fait passer, on a fait une demande de permis de construire pour le séchoir solaire. Et dans la demande de permis de construire, on a inclus la maison, quoi. Et du coup, ça a été accepté comme ça. Et maintenant, on a une maison qui est super, quoi. Enfin, voilà, il n'y a pas... quoi, il y a pas, si, il y a tout maintenant, il y a tout, il y a tout.
Aujourd'hui, on est surtout là pour parler de la logeuse qui a 10 ans, un peu plus de 10 ans. Nous, on est venu du coup avec notre émission qui parle souvent du mal logement à Marseille. Au moment de la création de la logeuse, à quoi ça ressemblait le mal logement ? Est-ce qu'il y a un mal logement ici ? Est-ce que c'est des mêmes mots qu'on utilise ou est-ce que ça pourrait couvrir des mêmes sortes de choses, Richard ?
À l'époque, on ne peut pas vraiment parler de mal logement. C'était plutôt, on avait de fortes demandes de logement. Moi, j'étais à la mairie, donc je voyais arriver plein de demandes de jeunes couples qui voulaient s'installer sur la commune. Et en face, on avait rien. On n'avait aucune possibilité. On avait beaucoup de résidences secondaires et des ruines. Et il n'y avait pas d'offres et beaucoup de demandes. Donc, pendant une période, quand même, le conseil municipal a eu une politique d'accueil, malgré certains cas difficiles comme celui de Aude. Il y a eu quand même, à un moment, une politique d'accueil de la commune. C'est-à-dire que la commune a essayé de faire des baux à réhabilitation pour retaper des logements que les propriétaires ne voulaient pas remettre en état. La commune les prenait, les retapait et les louait pendant une quinzaine d'années. C'est la commune qui avait la gestion de ce truc-là. On incitait aussi des propriétaires privés qui étaient peu présent à louer à des gens, où la commune faisait intermédiaire des fois. Puis il y a une époque où la mairie n'a plus la compétence logement. Et donc cette compétence logement est passée à la communauté de communes de Sainte-Croix-Vallée-Française, qui a continué un peu cette politique, qui a acheté quelques logements qui étaient en vente pas trop chers. Et puis cette communauté de communes a été regroupée dans une plus grosse communauté de communes qui, elles, s'en foutaient complètement du problème du logement. Et du coup, la logeuse, on a voulu créer cette association parce qu'à un moment, le service public ne faisait plus son rôle d'accueil de population. On s'est dit, mais il y a plein de gens qui veulent s'installer. La commune meurt, la population descend. Il faut qu'on fasse quelque chose pour essayer d'accueillir des jeunes couples ou n'importe qui voudrait s'installer et essayer de débloquer un peu le foncier et non pas que ce soit uniquement des résidences secondaires qui achètent des propriétés. Quoi.
Justement, est-ce que tu peux être un peu précis sur au début de la logeuse, donc il y a 10 ans, sur l'état du foncier, ça représentait entre les gens qui étaient là à l'année, les résidences secondaires, les habitats vides, nous donner un peu...
Deux tiers de résidences secondaires, un tiers de résidences principales à l'époque.
D'accord.
Ça a un petit peu diminué récemment, mais c'est encore très important le nombre de résidences secondaires. Alors, il y avait des résidences secondaires qui, effectivement, venaient là souvent, donc qui créaient de la vie, mais il y avait certaines résidences secondaires où les gens, soit ils venaient pratiquement jamais, soit ils venaient une semaine par an, 15 jours par an. Donc voilà, il y a peut-être moyen aussi de les inciter les résidences secondaires à louer au moment où ils n'étaient pas là. Enfin, on a essayé plein de choses, quoi, mais... On s'est dit, bon, il faut qu'on intervienne. Il y a eu une période où les logements, on a eu une potentialité de quelques logements pas trop chers. On s'est dit, mais il faut qu'on achète et que ça parte pas en résidence secondaire. D'où l'idée de création de la logeuse.
Et pour toi, Aude, est-ce que ça répondait un peu à ce même contexte ou tu as d'autres souvenirs un peu de ce moment de la création de la logeuse ?
Moi, mon souvenir que j'ai, c'est aux différents conseils municipaux auxquels j'ai participé. Enfin, différents mandats, puis par la suite aussi d'autres collègues. On a essayé de démarcher au sein du conseil, d'amener une dynamique rapport au logement, comment on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, sensibiliser la population, les propriétaires surtout.
En fait, on a créé une commission logement qui était extra-municipale, enfin, qui était à la fois des conseillers municipaux, ceux qui étaient intéressés, il y en avait quelques-uns, et puis extra-municipal, des gens extérieurs au conseil municipal, et c'est cette commission logement qui a fait des questionnaires, qui est allé voir des gens, qui a les incité à louer ou pas, ou poser des questions, on a fait plusieurs questionnaires d'ailleurs, est-ce que seriez-vous prêt à louer votre maison, ou un bout de terrain, ou à vendre un bout de ruine, etc., etc. Mais c'est cette commission qui a été un peu à l'initiative de...
Est-ce qu'on a une idée un petit peu de la part de locataires propriétaires à Saint-Martin ?
Il y a très très peu de locataires. Il y a les seuls, pratiquement la majorité des locataires, c'est des locataires des logements communaux. Et il y a, on va dire, 3-4 peut-être logements privés qui se louent, peut-être un peu plus maintenant, 4-5 peut-être. Ouais. Mais sinon, la plupart, c'est des logements sociaux de la commune.
Et est-ce qu'on connaît sur les propriétaires du coup de la commune, est-ce qu'il y a de multiples petits propriétaires, est-ce qu'il y a des grands propriétaires, des petits propriétaires, c'est quoi les paysages de la propriété?
Non, c'est plutôt des petits propriétaires. Il y a quelques propriétaires un peu plus importants, mais au niveau des terres, pas au niveau des bâtiments. Les bâtiments, non, c'est plutôt des... Ils ont une maison, deux maisons maximum, mais pas beaucoup plus, quoi. Mais c'est souvent donc des vieilles propriétés de famille pour les gens qui habitent en résidence principale. Et après, il y a toute une partie de nouveaux installés qui sont quand même de plus en plus importants. Maintenant, c'est peut-être presque 50% de la commune, au moins 50% de la commune, je dirais. Et puis les résidences secondaires, qui se divisent en deux. Une grosse partie qui sont de culture protestante, qui ont gardé un bien de famille ou qui veulent s'installer en Cévennes avec l'histoire des protestants, des camisards, etc. Et une petite partie de résidences secondaires qui n'ont aucun lien avec la culture protestante, mais qui viennent là pour... Suite au Covid, d'ailleurs, il y a eu quelques-uns qui sont installés, etc.
Et ce qui est rigolo dans cette histoire de commission, c'est qu'on était certains du coup à être au sein du conseil municipal et d'autres qui étaient les copains, copines qui étaient complètement extérieurs. Et du coup, on avait... Enfin, moi, j'étais vraiment attachée à ce qu'on arrive à faire bouger les choses au sein du conseil municipal. Et en fait, très vite, les copines, copains, ils étaient là. Mais non, en fait, il n'y a pas moyen, ça ne marche pas, ça ne prend pas, on ne va pas passer notre temps à ça. Vas-y, on va faire un truc de notre côté, quoi. Et moi, j'ai eu du mal à me le mettre en tête, à me dire, mais ouais, ils ont trop raison. Et en fait, c'est ce qu'on a fini par faire, parce que c'était la meilleure solution, quoi.
On parle de quelle année, là, du coup, ce passage
Bah, la logeuse, c'est à 10 ans. Elle a 10 ans depuis l'année dernière.
On se posait la question aussi de savoir si la logeuse, au moment de sa création, vous étiez inspiré d'autres modèles qui existaient autre part. Est-ce que vous aviez des influences, du coup, à part cette genèse un peu intra au conseil municipal, est-ce que vous avez eu d'autres inspirations?
On s'est jeté un peu à l'eau. Hein. Moi, personnellement, je n'étais pas trop au courant. Ça, il faudrait voir peut-être plus avec Anne Pascal, qui avait peut-être des infos là-dessus. Mais on s'est jeté à l'eau, on s'est dit, bah, on ne sait pas quoi faire, on crée une association, on ne savait pas si c'était une société immobilière. On a essuyé un peu les plâtres, là, complètement, je pense. Hein. Enfin, je pense.
Moi, ce que je me rappelle, c'est juste... je ne sais plus trop comment ça a glissé. En tout cas, entre le groupe de gens qui se préoccupaient du logement et la logeuse, je ne sais plus trop comment ça s'est glissé. Mais ce que je me rappelle, c'est que juste on a vu qu'il y avait une maison à vendre pas très chère et on s'est dit, là en fait, si on ne veut pas qu'elle parte, eh ben, il faut qu'on l'achète et point quoi. Et hop.
Flesh, it's certain the end. And when it's all done, an awakening of the sun, and it's all begun again, and it's all begun again. We have searched for meaning, bone-headed and milling, but our thoughts keep running to the end. Sacred stars may guide us, and the shadows they might hide us, but the winter finds us in the end. Oh dear mother, save us, for this bodies that do fail us, lust or a surret, chase us to the end. Your dear children need you, we must choke you, we must bleed you, but we surely will feed you in the end. What sorrows we rightfully defend, we'll not tell them the story. There's no triumph but our glory, though we stumble and surely to its end. When the night is come, we will tremble, we will run, for we thought the circle we could bend. And when it's all done, then awaken up the sun, and it's all begin again, for it all begins at the end.
Avec ces 10 ans de recul là que vous avez sur la logeuse, est-ce que ça a amené beaucoup de débats dans le village, ou est-ce que ça a fait l'unanimité? C'est quoi un peu votre regard là sur les 10 dernières années de l'inclusion de la logeuse à Saint-Martin?
L'unanimité, non, ça c'est clair. Il y a encore des réticences et puis des gens qui nous mettent un petit peu des bâtons dans les roues. Il y a d'autres, il y a quand même une partie du village qui trouve ça une très bonne idée, puisque aux fêtes et tout, il y a quand même beaucoup de gens qui viennent, qui assistent aux fêtes, qui viennent nous soutenir. Mais il y a encore un pourcentage de la population qui tique, on va dire.
Bah, je pense qu'il y a pas mal de gens qui comprennent juste pas c'est quoi cette idée, quoi. D'acheter des lieux pour les louer, déjà, dans l'idée, on se fait de l'argent. Enfin, voilà, quoi. Voilà, déjà, le concept, ils ne comprennent pas trop, quoi. Par ici, ça pose problème. Après, peut-être, il y a aussi le fait qu'on se mêle trop des affaires communales. Ou, voilà, je ne sais pas. C'est comme si les gens n'étaient pas habitués à prendre en main ce qui se passe sur le pays, sur le territoire, et que tout le monde est en capacité de le faire, et peut le faire, et doit le faire. Ça pose question, déjà. De quoi tu te mêles, en fait? Donc, doucement. Ça vient doucement, mais c'est vrai, quand on fait des événements, il y a du monde, il y a du soutien, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas du tout de la commune, qui, oui, parmi tous ces gens-là. Et puis, je pense qu'il y a les gens qui sont de la commune, ils viennent parce qu'ils n'ont pas trop le choix, parce qu'on prend tellement de place. Et... Enfin, voilà, on sollicite quand même beaucoup et... Ils se sentent un peu obligés. Puis, ouais, il y a quand même aussi cette culture protestante d'accueil, ta-ta-ta. Mm. Du coup, oui, on est là. Mais bon, je sais pas. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que les communes avoisinantes, elles sont en mode « Ah, venez, venez, nous aussi, on a des... » Mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est que juste les gens, enfin, que tout le monde s'en empare de cette histoire, quoi. C'est ça, le problème, c'est que personne s'empare de rien. Du coup, il se passe rien. Enfin, bref.
Moi, j'ai des échos un petit peu plus favorables, pas d'autres personnes que tu peux rencontrer, qui sont très contents de, qu'on fasse ça, des quelques résidents secondaires, des anciens, des vieux résidents secondaires, et qui disent mais c'est vraiment super ce que vous avez fait et tout ça, et des vieux de la commune aussi, des vieux de la commune qu'on n'entend pas beaucoup parler parce qu'ils sont pas au conseil municipal et tout, qui restent un peu dans leur coin et tout, mais qui sont contents qu'il y ait ça. D'abord ça fait des jeunes qui viennent, des gens qui s'installent, donc ça fait de la vie dans le village, et qui sont contents qu'on ait fait ça.
La logeuse, c'est notamment dans des anciens, dans des bâtiments qui étaient des bâtiments de service à une époque. Comment ça se passe pour qu'il y ait de la vie dans ce village?
Depuis très longtemps, beaucoup d'associations qui existaient sur Saint-Martin. Je ne sais pas s'ils existent encore. Moi, je suis un peu retiré un petit peu. Bon, mais il y a eu beaucoup d'associations qui ont fait plein de choses sur Saint-Martin depuis les années 75-80 à peu près. Il y avait une vingtaine d'associations qui existaient. Il se passait plein de choses. Donc ça a créé une espèce de dynamisme autour de Saint-Martin, des gens qui ont voulu s'installer pour ça, parce qu'il y avait quelque chose qui se passait. Ça explique un petit peu le dynamisme historique qui s'est passé sur la commune de Saint-Martin. Voilà.
Moi, je dirais que on n'est pas nombreux, mais les personnes qui sont là ont envie qu'il se passe plein de choses et qu'effectivement, là, on tente d'ouvrir, d'ouvrir un petit local de dépôt de nourriture. On essaye de faire vivre cet endroit, ce village. Après, on en a juste besoin, en fait. On vit là, on en a besoin, on a envie que ça continue. Après, on est trop peu nombreux. Ça serait super qu'il y ait plein d'autres gens qui s'installent et ça fonctionnerait vraiment bien, quoi.
Moi, je crois qu'à une époque, on s'est dit, ici, on est trop loin de tout. C'est-à-dire que si on veut des spectacles, si on veut, c'est tellement loin d'aller ou à Florac ou à Mende ou à Alès, que si on veut avoir du spectacle de la vie, il faut qu'on le crée ici, qu'on fasse quelque chose ici, on a créé la salle polyvalente du Temple pour faire des spectacles, on a créé Cinéco, le cinéma itinérant, on faisait des stages de chant, de théâtre, de tout, parce qu'on était hyper loin. Du coup, on s'est pris en main, quoi. On s'est dit, si on veut qu'il y ait quelque chose, il faut qu'on le fasse, nous, quoi.
Et puis il y a le foyer rural ici, le Chalut, qui œuvre depuis 20 ans, plus de 20 ans, qui fait des trucs incroyables, alors qu'il y a combien d'enfants sur la commune? Très peu, quoi, une quinzaine. Et il y a des tonnes d'animations, de stages, d'écolos de dingue. Ensuite, il y a les associations, que ce soit le Chalut, la Chaloupe ou quoi, qui organisent plein de concerts au temple super bien, avec des spectacles, du théâtre. Enfin, il y a une vie culturelle bien, bien riche, quoi. Et il y a beaucoup de gens qui souhaitent venir ici, soit en résidence, résidence de travail, résidence de spectacle, danse. Tout, quoi. Il y a vraiment une grande vie associative et culturelle. Pour le peu de personnes qu'on est à vivre ici, c'est top top, quoi.
D'où l'envie des gens de venir s'installer à Saint-Martin. Du coup, la demande de logement qu'on ne peut pas complètement satisfaire, quoi.
Alors la zone, ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit quoi?
Ok, on revient sur la deuxième partie du plateau d'Alors la Zone. On a légèrement changé d'interlocuteur. On a AP avec nous, on a Flo et Jacques. Est-ce que vous voulez vous présenter rapidement?
Ben voilà, ben moi c'est Flo. J'habite à Saint-Martin depuis quand? Depuis une vingtaine d'années, quelque chose comme ça. Avant, j'étais sur la commune d'à côté. Je suis locataire de la mairie actuellement, enfin dans un logement qui appartient à la mairie. Et je fais partie de la logeuse depuis sa création. Voilà.
Alors, je m'appelle AP, je suis sur une ferme collective depuis une bonne quinzaine d'années. On s'est installé là en 2009 sur la commune. Donc, on est une quinzaine à habiter ensemble sur le même terrain. Et c'est notre association qui est locataire d'une autre association qui s'appelle Terre de Liens. Et je suis aussi à la logeuse depuis le début de la logeuse.
Et Jacques, moi, je suis arrivé sur la commune en 95, il me semble, donc bientôt 30 ans. Et je suis à la logeuse depuis l'achat de la dernière maison, où il y a 3 ans.
Tout à l'heure, on a essayé de rentrer par la porte du mal logement, on a essayé de raccrocher un peu les wagons. Richard a plutôt rebondi sur le manque de logement, mais est-ce que vous, cette histoire de mal logement, ça vous fait penser à autre chose ? Est-ce que vous auriez envie de revenir dessus à...
Bah, ça me faisait penser un petit peu comme Aude aussi l'a dit, que oui, parfois quand les personnes sont arrivées, même si elles avaient pu acheter un petit bout de terrain avec une ruine à retaper, elles ont commencé à paraître en caravane par exemple, ou bien d'autres personnes se sont construites des cabanes. Je trouve qu'on est quand même dans un territoire, pas que sur notre commune, mais où il y a des logements qui ont été autoconstruits et où les mairies ont un peu fermé les yeux aussi parce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités de logement. Et que je trouve... Pour le coup, pour moi-même avoir habité en yourte ou en cabane, pour toujours d'ailleurs j'habite toujours dans une cabane, je trouve que quand on parle de mal logement, des fois on se dit « Ah, c'est ça le mal logement ». Alors ok, les caravanes, je dis pas, c'est petit, ça peut être quand même très précaire, mais parfois dans une yourte ou une cabane, on peut être bien mieux que dans une maison en pierre, hyper froide, pas isolée, toute sombre. Et du coup, voilà, je connais des gens dans le coin, ailleurs, qui ont des logements très confortables et qui ont pu être légalisés aussi. Enfin voilà, je trouve dans les autoconstructions, il y a des trucs beaucoup plus réfléchis et parfois beaucoup plus confortables que des maisons qui existent déjà finalement. Et que ça a permis, notamment, c'est une des raisons qui fait que la commune a gagné aussi en population. Je trouve,
Bah juste pour appuyer ce que disait AP, moi j'ai fait une petite recherche universitaire il y a quelques années et juste j'ai compté. Et il y a une époque à Saint-Martin, il y avait un peu plus d'un quart de la population qui vivait, qui avait vécu ou qui projetait de vivre dans des habitats non réglementaires et qui sont... Du coup, c'est une situation assez exceptionnelle qui est due, je pense, à l'ancien maire et puis à l'ancien secrétaire de mairie que vous avez entendu avant. Et après, ces gens ont décidé d'aller vivre ailleurs ou de rentrer dans des processus de régularisation ou de rester comme ça, mais c'était quand même un fait assez notable. Et ce qui n'était pas du mal logement en soi, mais une forme de précarité législative qui fait qu'on n'était pas sûr de pouvoir rester dans nos habitats.
Et ça peut être aussi assez désagréable de vivre dans une maison ultra mal isolée, inchauffable, où on passe des tonnes de bois, enfin voilà, et ce qui est... un peu mon cas, enfin je dis pas, bon, j'y suis bien quand même, mais c'est sûr que c'est pas mal logement, ça me fait un peu penser à mon logement quand même, en termes d'état, voilà.
Alors, depuis tout à l'heure, on a parlé de la logeuse, et qu'est-ce que c'est la logeuse ? Depuis quand ? C'est qui ? C'est quoi ? C'est quoi vos objectifs ?
Voilà, l'objet hein, de notre association, c'est vraiment favoriser et pérenniser l'habitat permanent dans les Cévennes. On est toutes et tous bénévoles et on fait du logement social avec cette première maison. Puis là, il y a quelques années, une deuxième maison qui est l'ancienne poste qu'on a rachetée aussi. Donc ça fait que maintenant, on a 3 logements. Et ce n'est pas l'objectif de la logeuse de faire forcément du logement. Hein, c'est plutôt de faire parler du logement et du rapport à la propriété. Hein. Du coup, on fait aussi des événements quasiment chaque année.
Actuellement, dans les membres actifs, on est une dizaine, je dirais, quelque chose comme ça. Vraiment, voilà. Après, il y a beaucoup de sympathisants autour et de gens qui nous filent des coups de main, notamment sur des événements ou sur quand on a des travaux à faire ou des choses comme ça, quand on fait des chantiers participatifs.
Comment vous vous organisez, en fait ? C'est quoi vos tâches ?
Bah, c'est un peu comme dans toutes les assos, j'ai envie de dire. En théorie, c'est tournant. En pratique, c'est toujours un peu les mêmes qui œuvrent à ce qu'il y a à faire, quoi.
Du coup, on prend les décisions plutôt au consensus, consentement. Nos réunions sont quand même assez détendues, quoi. On n'a jamais eu d'embrouille au sein de la logeuse. Ça fait 10 ans. Ah. Oui, alors oui, c'est vrai, il y a eu un petit moment dans la routine comme ça. On a une réunion mensuelle, mais en gros, ça demande un suivi un petit peu permanent, quoi. On est au moins en train de gérer la boîte mail, par exemple, et l'interface un peu avec toutes les institutions ou les locataires. Le temps que ça demande, c'est difficile à dire, mais par exemple, quand on est sur le moment d'acheter une maison, là, ça demande beaucoup, beaucoup plus de temps, parce qu'il y a tout le montage, et ça prend sur un an, parce que ça dure, c'est toujours un peu lent et long d'acheter une maison. Et après, il y a ce truc des travaux. La logeuse, on fait les travaux sur nos maisons, parce qu'on a acheté des vieilles maisons, et qui n'étaient pas, la première, elle n'était pas du tout habitable dans l'état. Et du coup, c'est nous, les bénévoles, qui faisons les travaux avec les coups de main des personnes qui veulent bien venir nous aider dans le village. Et c'est vrai que, en 10 ans, on a un peu vieilli les logeuses, là. Du coup, voilà, la deuxième maison, je pense qu'on avait un peu plus de peine sur ces trucs de travaux. Et vu qu'on n'a pas de rond, enfin, on n'a pas d'argent, hein, y a plusieurs personnes à la logeuse qui sont... soit locataire, soit en cabane, soit propriétaire. Mais du coup, faire les travaux, on essaie toujours que ça coûte le moins cher possible.
Alors moi, je suis arrivé tardivement à la logeuse. Enfin, j'ai toujours été sympathisant de cette association. Je trouvais ça génial que des gens prennent de leur temps juste pour que d'autres puissent venir s'installer dans l'endroit où ils habitent. Et quand je suis devenu locataire à la logeuse... j'ai fait un peu le même constat que Flo et de me dire que je devais prendre un peu ma part parce que cette association existait pour mon confort quelque part aussi, donc de soutenir un peu ces personnes pour qu'elles s'essoufflent pas trop.
Je rebondis en fait, toi du coup tu es locataire, et est-ce que par exemple les locataires de la logeuse, est-ce qu'ils doivent s'engager à être avec la logeuse et à participer également?
L'intention de la logeuse, c'est de... Enfin, comme il y a une réflexion autour de la propriété privée, c'est aussi d'essayer de déconstruire ces choses-là. Il y a pas mal de choses qui passent par le langage, donc on a essayé de changer les termes, de parler de la logeuse et des logés, pour pas parler de propriétaire et de locataire, mais bon, il y a des choses qui sont ancrées de par notre éducation, de par le système dans lequel on vit, et c'est difficile de s'en dépêtrer. Donc moi j'essaye de m'impliquer, et après pour ne pas qu'il y ait de conflit d'intérêts, moi je peux participer à des réunions mais je me retire des prises de décision.
On avait fort cette volonté en fait que les locataires soient complètement actifs dans la sauce, quoi, la fasse vivre aussi. Et puis, on s'est rendu compte que les gens qui venaient taper à notre porte parce qu'ils cherchaient un logement, ils cherchaient surtout un logement, même s'ils étaient parfois sensibles à ce qu'on faisait, à la façon dont on le faisait. Il y avait un truc un peu comme un conflit d'intérêts entre être en même temps locataire et en même temps propriétaire, finalement. Jacques, c'est un peu le contre-exemple, mais les autres, c'est resté des locataires, en fait, même si, de fait, ils sont quand même très, très impliqués dans leur logement, pas dans la sauce globale, mais sur leur logement. Dans leur maison, en l'occurrence, on en a plusieurs qui sont très, très actifs, qui font des travaux, qui font des aménagements. Il y a un logement où il y a effectivement l'eau qui vient d'une source, en fait, il n'y a pas d'adduction d'eau. Et il faut régulièrement monter à la source qui est loin dans la montagne, aller nettoyer, enlever les feuilles, déboucher, etc. Et de fait, les personnes qui habitent le font. Et heureusement, parce qu'on a eu à un certain moment des locataires qui ne le faisaient pas, et c'était hyper contraignant pour nous. Ils nous appelaient tous les quatre lendemains, c'est bouché, etc.
Et du coup, pour en revenir un peu au concept lié à la propriété vous avez vaguement abordé tous et toutes, est-ce que vous avez envie de revenir là-dessus, sur ça veut dire quoi en fait d'utiliser une autre terminologie et en fait de réfléchir autrement à la propriété.
Mais la logeuse, elle vise plutôt à ne plus être propriétaire, d'où cette réflexion avec le fonds de dotation Antidote là c'est déjà un bien commun les propriétés de la logeuse, mais d'en faire un bien commun encore plus large et qui ne dépendent vraiment plus de la logeuse, et que nous on soit débarrassés de ça et qu'on ait juste à gérer ce qu'on pourrait appeler la propriété d'usage avec les personnes qui sont logées.
Et l'idée, c'est pas ça, en fait. C'est comme si c'était là. Là, on a acheté ces maisons, c'est pour les protéger, en fait. C'est pas pour les avoir. On s'en fout d'avoir des maisons. C'est pour juste les protéger, qu'elles continuent à être là et qu'elles soient vivantes, en fait. Enfin, notre objectif, c'était ça.
On peut pas dire le mot propriétaire, mais en tout cas, si on revient à ces histoires de mal logement, pour être bien logé, c'est bien d'être dans un logement confortable, et j'ai l'impression que ça tient à cœur à pas mal de personnes à la logeuse d'être comme des bons propriétaires, c'est-à-dire que les locataires elles soient bien, bien logés. Et du coup, on a un peu une ambition que les logements soient bien isolés, qu'ils puissent être faciles à chauffer, qu'il y ait un peu tout le confort nécessaire. Et je trouve que c'est ça qui n'est pas si évident dans ce truc, de se retrouver de ce côté. Moi-même, je suis propriétaire ou locataire de rien, et là, je me retrouve à endosser ce rôle dans l'asso.
Comment vous faites pour financer ces maisons AP?
Alors la première maison, on a fait un gros événement dans le village qui nous a rapporté 10 000 euros. Et bon, vu que ça coûtait en tout quasiment 100 000 euros, c'est-à-dire l'achat de la maison plus le notaire plus les travaux, du coup, on a fait un emprunt. On a fait plusieurs emprunts. Il y a des personnes privées qui ont bien voulu nous prêter de l'argent. Et on a trouvé une banque qui voulait bien prêter à l'asso. Et on est encore en train de rembourser ces emprunts-là avec les loyers. Et sur la deuxième maison, on n'a eu que des personnes qui nous ont soit prêté, soit complètement donné l'argent. Et après, comme il faut encore de l'argent pour les travaux, eh bien, on va citer notre partenaire principal, c'est-à-dire la fondation SOMFI, qui s'appelle aussi Les Petites Pierres. Vous voyez un financement participatif là sur Internet. Et du coup, c'est une fondation qui vient doubler la mise. On trouve des personnes qui veulent bien nous aider à faire des travaux jusqu'à 10 000 euros et eux, ils rajoutent 10 000 euros. Donc là, sur les deux maisons qu'on a achetées à chaque fois, on a pu faire 20 000 euros de travaux grâce à ce financement.
On a eu aussi une subvention de la Fondation Abbé Pierre sur la première maison pour les travaux aussi.
Ça, c'est vous qui étiez allé les chercher, les démarcher ou...
Oui, on avait été rencontrer la Fondation Abbé Pierre à l'époque pour la commune, pour une maison de la commune. Et c'était le début de la création de la logeuse. Du coup, on avait aussi parlé de la logeuse. Du coup, ils nous ont aussi soutenus sur la première maison.
Et là, par exemple, on se pose la question, il y a une nouvelle maison en vente dans le village. On se pose la question de se relancer dans un nouvel achat peut-être. Mais est-ce qu'on a vraiment encore l'énergie pour faire les travaux, etc. Voilà, on en est un peu là aujourd'hui.
Mais c'est vrai que sur l'achat de la deuxième maison, on a quand même pu voir qu'il y avait... Enfin, je trouve... qu'il y a des choses qui ont changé aussi un petit peu, c'est-à-dire qu'entre-temps, Richard en a peut-être un petit peu parlé, mais il y a eu tout ce truc de PLUI, c'est-à-dire qu'au niveau de la commune, il y a eu un plan d'urbanisme qui a été fait et qui a fait qu'il y a plein de personnes qui se sont positionnées, notamment pas mal de résidents secondaires, ont vraiment insisté. À ce moment-là, on écrit des lettres à la communauté de communes, on est dans le parc national des Cévennes, vous voyez, à la mairie, en disant qu'ils ne voulaient plus du tout qu'il y ait de nouvelles constructions, plus qu'il y ait de yourtes, que le paysage, il fallait qu'il reste nickel et que ça suffisait, les verrues dans le paysage. Donc il y a eu comme un peu, vous voyez, des sortes de... un peu conflits, enfin, c'est-à-dire qu'on est quelques personnes à avoir été... avoir juste ouvert nos bouches dans les réunions où il y avait ces autres personnes en disant, ben, c'est qui les verrues dans le paysage ? Enfin voilà quoi, c'est aussi, il y a un truc de classe sociale, qui sait qui peut se permettre d'acheter une maison à 350 000 euros en n'y venant qu'une semaine dans l'année, et c'est qui, d'un autre côté, qui entretient ce paysage tout au long de l'année, et que juste on n'est pas juste des cartes postales avec des... Enfin, qu'il y a des gens qui habitent vraiment là, et que c'est aussi ben, nous qui sommes partis de ce décor, quoi. Enfin, c'est aussi nous le décor, enfin, je sais pas comment dire. Donc on a eu quand même pas mal de discussions là-dessus, et ben mine de rien, quand on a acheté la dernière maison, là, il y a 3 ans, c'était un peu dans ces eaux-là, dans ces moments-là, où ce PLUI était en cours et qu'il y avait des réunions publiques où on s'est un peu confrontés. Ces personnes sont venues à notre fête et le soir même, on ouvrait notre financement participatif pour les travaux. Et le soir même, toutes ces personnes qui ont écrit des lettres ont filé pas mal de fric. En fait, on a eu quasiment en une semaine tous les 10 000 euros, justement notamment par les résidents secondaires qui n'étaient pas du tout en soutien sur la première maison. Alors c'est sûr qu'ils lâchent pas des bouts de terrain ou des bouts de maison, mais je pense que sur cet achat-là, moi, mon analyse, c'était qu'ils ont montré qu'ils étaient raccord avec ce qu'on faisait, parce que ce qu'ils trouvent bien, c'est que les ruines qui existent déjà, c'est ça qu'il faut réhabiliter, il faut rien rajouter d'autre, il faut juste retaper, et nous, c'est vrai que la logeuse, on fait ça, on retape des maisons qui existent déjà. Donc ils pouvaient juste nous montrer qu'ils étaient en soutien avec ce qu'on fait. Bon, ben maintenant, je trouve que ça serait bien d'aller un peu plus loin et dire, bon, ben peut-être vous pouvez mettre un peu plus la main à la pâte dans cette histoire. Et pas juste financer pendant une fête un peu les travaux, quoi.
On a parlé de 3 logements et en fait ça équivaut à combien de logés ?
Alors il y a une maison où il y a une famille, donc un couple avec une enfant plus d'autres qui sont grands et qui viennent, on va dire. Et puis l'autre maison qui se sépare en 2 logements, donc d'un côté il y a un locataire, Jacques, et de l'autre côté il y a aussi un locataire. Au départ c'était une coloc, mais finalement il y en a un des deux qui est parti, et donc il reste une personne.
Comment vous les choisissez ? Est-ce qu'il y a des critères ?
Alors ça a été une question un peu cruciale pour nous à un moment donné, justement quand il a fallu choisir notamment les premiers locataires.
En fait il y a des gens qui connaissent le coin ou qui sont dans le coin depuis un moment et qui cherchent. On va aller vers eux en premier, plutôt que d'aller mettre des annonces, des gens qui ne connaissent pas du tout ici. Et, Et ça, c'est hyper important parce que les Cévennes, ici, c'est quand même hyper reculé. Il y a très peu de services. Il y a des gens qui viennent s'installer pour se mettre au vert ou quoi et qui ne restent absolument pas parce que c'est un territoire qui est quand même rude et les gens ne sont pas habitués.
Il y avait une partie des gens qui étaient assez attachés au fait d'avoir une famille avec des enfants parce qu'il y a l'histoire de l'école du village qui est régulièrement menacée parce que chaque fois, il n'y a plus assez d'enfants. Pour l'instant, on a toujours l'école. Mais une autre partie qui disait que c'était pas forcément une question cruciale, enfin qu'on pouvait aussi s'attacher à loger d'autres gens, à loger des collectifs, à loger, enfin voilà. Finalement, on a eu assez peu de demandes et c'était des familles pour le coup. Et en fait, on a choisi assez vite parce que finalement, il y a eu peu de gens qui se sont sentis capables de faire visiter et de choisir. Donc, on était très peu à recevoir les potentiels locataires. Et dès qu'on a senti une famille qui avait l'air chouette, on a dit « Ok, on prend cela, on n'a pas à chercher plus loin. » Voilà, ça, c'était pour la première maison. Et puis, par la suite, ça a été plutôt par connaissance, parce que du coup, alors sur cette première maison, les locataires ont changé, mais c'était les voisins, donc du coup, hop, ils ont pris la suite un peu naturellement. Sur la nouvelle maison, ben du coup, Jacques, ça s'est fait naturellement parce qu'il était là dans le projet dès le départ. Et le deuxième locataire, c'était quelqu'un que connaissait une des personnes de la logeuse et qui nous l'a proposé.
Juste une question, on n'a pas parlé des baux. Est-ce qu'il y a des baux? Est-ce que ça fonctionne par bail locatif? Et si oui, est-ce qu'il y a une durée? Est-ce que c'est les mêmes durées que ce qui se fait normalement? Enfin,
comme la logeuse, c'est une personne morale et pas une personne physique, ah oui. Les baux, c'est 6 ans. Ah. Mais voilà, sinon, c'est des baux absolument classiques. La spécificité, ça, c'est un choix de la logeuse, c'est que... Il y a des classifications de type de loyer et la logeuse, c'est inscrit dans les loyers... tarification très sociale. Donc c'est encore en dessous des tarifs sociaux.
Mais en tout cas, moi, 6 ans pour un bail, c'est, enfin, je trouve ça... Enfin, c'est pas anodin aussi pour justement cette histoire de précarité de logement où t'as des baux de 1 an et qu'en fait, tu sais pas où tu vas bouger. C'est pas anodin, ouais. Où est-ce que vous êtes à l'aise sur ce lien loger-logeuse ?
En l'occurrence, en ce moment, c'est un peu moi qui m'en occupe du rapport aux locataires. Et c'est un peu... C'est des locataires, c'est aussi des copains. En l'occurrence, moi, c'est aussi mes voisins.
Juste rapport à ça, moi, je trouve que c'est hyper difficile d'assumer que toi, tu es quand même hyper responsable, comme le disait AP tout à l'heure, de proposer un logement correct, décent, confortable... qui la plupart du temps, pour la plupart d'entre nous, est beaucoup plus confortable que où on habite. Mais en même temps, nous, où on habite, enfin, plusieurs d'entre nous, où on habite, on est propriétaire, du coup, c'est un choix, enfin, voilà. Du coup, c'est difficile et inconfortable. Et en même temps, là, pour le coup, Flo, elle parlait de l'histoire de la source. Là, en l'occurrence, c'est moi qui m'en occupe avec mon compagnon. On s'est mis sur cette mission-là quand on parlait de comment on était organisé dans la longeuse, qui gérait quoi et quoi. Du coup, nous, on s'est dit, OK, on veut bien s'occuper de la source à Malafosse. Et en fait, on n'assure pas, quoi. On n'assure pas notre tâche parce que quelque part, on se repose aussi sur le fait que les locataires, ils sont sympas, qu'ils le prennent aussi en main. Du coup, on s'est dit, ah tiens, ça check bien. Et puis, de temps en temps, on s'est dit, mais non, en fait, c'est à nous de faire ce boulot. Comment jouer avec ça? Enfin, c'est vraiment compliqué. Et je pense qu'on ne prend pas assez de temps, de réflexion là-dessus et de discussion et de se positionner vraiment comment on peut fonctionner ensemble, les logés, les logeuses. Comment on fait avec ça? On n'a pas du tout assez épluché cette histoire et on le fait chacun notre tour, petit à petit, en trouvant des biais, des solutions. Mais il n'y a pas quelque chose de global qui est vraiment clair entre nous. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a vraiment à travailler.
C'est vrai que c'est un truc qu'on travaille. Et là, dernièrement, on s'est dit qu'une fois par an, on allait organiser une réunion. Enfin, une réunion ou un apéro chez chaque locataire, chez chaque logé, pour faire un peu le tour du logement, voir s'il y a de quoi il y a besoin, sur quoi ils sont confortables, sur quoi ils le sont moins, etc. Pour essayer d'avoir plus un suivi aussi de l'entretien et puis bah, entretenir le lien aussi avec les gens. Et ça, moi, je trouve ça super. Et moi, ça me tient à cœur aussi parce que c'est vrai que, alors, Odalie, elle est propriétaire, donc ça fait un rapport particulier. Moi, je suis locataire depuis toujours, en fait. J'ai toujours été locataire, sauf quand j'étais en yourte, mais gros, je connais que le statut de locataire. Et on assure peut-être pas, mais moi je trouve qu'on assure vachement par rapport à plein d'autres. Parce que moi, des propriétaires et même des mairies en l'occurrence, j'ai aucun interlocuteur, j'ai aucun retour, jamais, personne se soucie de quoi que ce soit. Quand je fais des lettres, on s'en fout, enfin bref, et je comprends, c'est aussi, enfin je comprends le système, c'est aussi des gens bénévoles, etc. Mais nous, on est bénévoles et on est quand même là, quoi. Et on est soucieux et je trouve, enfin voilà, moi ça me tient à cœur et je trouve qu'on le fait pas si mal finalement.
Non, mais je trouve qu'on le fait hyper mal, hyper bien, mais c'est hyper stressant en fait. Ouais.
Est-ce que ça change quelque chose d'être logé par la logeuse dans ton implication dans un éventuel... lieu d'habitat par rapport à, par exemple, si t'es locataire avec des propriétaires, est-ce que tu te sens légitime à travailler sur le bâtiment? Est-ce que ça te donne l'envie justement de t'impliquer sur des choses où en général on pourrait se dire bah tiens, je vais appeler mon proprio, et en fait là il y a un peu une part de, en fait c'est aussi chez moi en fait.
Ouais, le problème c'est que j'ai jamais été locataire. C'est la première fois. Et moi, je me suis construit mon habitat dans la forêt pour y habiter pendant 25 ans. J'ai ouvert des squats pour y habiter, pour faire des lieux éducatifs. Bah après, moi, ma position, c'est un peu celle que j'ai toujours eue. C'est, je vis là, donc je m'en occupe. Et je ne vois pas pourquoi ce serait d'autres gens qui viendraient passer du temps sur un lieu où ils n'y habitent pas. Donc, tous les travaux qui ont été faits dans la partie où j'habite, c'est moi qui les ai faits avec l'aide de bénévoles.
Est-ce que Jacques, c'est l'exception, ou est-ce que vous avez l'impression que les autres font un peu pareil?
Jacques, c'est le loger modèle. C'est l'excellence. On en profite un peu.
Est-ce que vous pouvez du coup revenir sur l'émission de la logeuse et les moyens que vous vous donnez pour les mener à bien?
Oui, donc même si je suis pas au début de l'histoire, moi j'ai toujours entendu dire, et puis ça se répète régulièrement au sein des réunions, que être propriétaire c'était juste un moyen pour la logeuse, puisqu'il y a une réflexion plus globale autour de ce qu'on pourrait appeler habiter. l'espace où on vit. Et du coup, habiter, c'est pas juste se loger, c'est pour reprendre ce dont parlaient Richard et Aude au tout début, c'est comment on anime la vie sociale, la vie culturelle. Et du coup, la logeuse, elle a toujours été intéressée pour faciliter ce qui est habité, dont l'installation pérenne de gens qui permettent le logement, mais aussi plein d'autres formes d'habiter l'espace. Et du coup, il y avait toujours eu cette réflexion, s'il y a des terrains à acheter pour que des gens puissent y poser une yourte, une caravane, un tipi, ça rentre dans les domaines de compétences de la logeuse. On a souvent parlé d'acquérir des espaces forestiers, parce qu'il y a plein de gens qui habitent là, mais qui ont juste leur logement et qui ne sont pas propriétaires terriens. Et comme presque tout le monde se chauffe au bois ici, de rendre accessible la forêt et puis de la gérer collectivement. La logeuse, là, elle est en train de mettre en place un petit espace où on puisse venir chercher de la nourriture et pas être obligé de prendre sa bagnole et pour aller au supermarché un peu loin. La logeuse, elle a aussi des activités au-delà d'événements qui font rentrer un peu de l'argent. Les événements, c'est surtout de faire réfléchir autour de qu'est-ce que c'est habiter et de créer du lien social et de créer de l'activité culturelle.
Tu laisses cet appartement de la logeuse pour des personnes de passage comme nous, par exemple. C'est quelque chose qui est aussi qui fait partie du contrat, quelque chose qui avait été discuté avant, ou ça, c'est aussi toi, ton implication et ton envie de pouvoir mettre ça en place.
Et on a la chance dans la commune d'avoir la mairie qui met à disposition la salle polyvalente pour des gens qui viennent en résidence gratuitement. Ils ont juste à payer les charges électriques et en échange, ils s'engagent à présenter le fruit de leur travail à la population. Et du coup, c'est super, mais il n'y avait rien pour loger ces gens-là, à part s'ils avaient, je ne sais même pas combien c'est, un gîte, mais ça peut vite monter. Du coup, l'idée, c'était, c'est juste à côté, donc peut-être que moi, j'ai la chance d'avoir une cabane et que j'en ai pas besoin tout le temps, donc quand d'autres gens en ont besoin, je leur laisse. Et du coup, ils laissent juste un petit quelque chose à leur appréciation pour participer à leur manière aux charges et à l'entretien de la maison. Enfin, c'est dans l'idée d'un service public en plus au village où il y a, y a cette chaloupe dont on a parlé, qui en plus de ce qu'on a dit, c'est il y a des machines à laver pour les gens qui n'ont pas ça chez eux, il y a un point d'accès internet, il y a un téléphone, on a une bibliothèque qui est quand même ouverte. Je ne sais pas si ça existe ailleurs en France, mais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en autogestion. Ça, pour moi, c'était logique que ça aille dans cette continuité de service public au village et de pouvoir faire venir des gens. Et puis, en fait, c'est en venant une première fois ici qu'on connaît, et puis qu'après, peut-être, on a l'idée de revenir et peut-être d'envisager de s'y installer et d'apporter une richesse supplémentaire à tout ce qui se fait déjà ici.
Si, juste pour rajouter, rapport, effectivement, là, nos actions. Ça a été vraiment les grandes actions, ça a été d'acheter ces maisons. Et souvent, on nous dit, oui, mais la logeuse, c'était pas que ça. Habitat léger, comme disait Jacques Dubois, des jardins, je ne sais quoi. Et en fait, pour l'instant, on n'a eu que des opportunités de bâti, en fait. Clairement, on n'est pas attaché spécialement à acquérir des maisons en pierre, énormes, inchauffables. On s'en fout, en fait, ce qui nous plaît. C'est d'accueillir des gens, quoi. Que ce territoire soit habité encore plus, beaucoup plus. Il y a vraiment énormément de place et on est trop peu nombreux. Après, c'est que des gens géniaux, du coup, c'est super, mais...
Coucou.